Il ne faut pas essayer de se dire que l'argent n'est pas important parce qu'aujourd'hui, de notre naissance à notre mort, on a besoin de l'argent. Donc, se dire que l'argent n'est pas important, c'est un peu un non-sens. Ma mère, elle m'a très vite inculqué la valeur du travail et elle avait de cesse de nous répéter que ton premier mari, c'est ton travail. Et ça, c'est quelque chose que je comprends aujourd'hui parce que...
Et t'es d'accord avec ça ? Le simple fait que Allah subhanahu wa ta'ala autorise la femme à garder son argent pour elle et en disant son argent c'est son argent et l'argent du mari c'est l'argent du couple, il y a cette, j'ai l'impression qu'il y a cette notion là en fait d'autonomie, de sécurité.
Des exemples, j'en ai plein et qui sont malheureusement pas glorieux, de femmes qui s'aperçoivent par exemple 5 mois après que ça fait 5 mois que le mari n'a pas payé le loyer. Je trouve vraiment que le tabou lié à l'argent, c'est vraiment un poison. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les erreurs, et je mets des guillemets sur le mot erreur parce que c'est plus des expériences, elles font partie de la vie et elles nous construisent.
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage et que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast. C'est une mission, celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Accrochez-vous, car cet épisode risque de vous faire cogiter durant des jours, voire plus si affinité. Aujourd'hui, on parle d'argent et c'est passionnant. Pourquoi ? Parce que c'est un sujet tabou qui pourtant dit beaucoup de nous. Parce qu'il est très souvent source de conflits au sein des couples mariés et qu'il faut en parler. Et enfin, parce que notre rapport à cette richesse, qui est pourtant un cadeau divin, est rarement sain. Du moins, pas avant de l'avoir questionné, puis éventuellement réparé. Avec Citan, fondatrice de Budgetiz, on a abordé de nombreuses problématiques. C'est quoi une bonne gestion de l'argent? Comment réparer des pensées, des comportements déviants? Pourquoi l'indépendance financière d'une femme n'a pas été créée par des mouvements militants contemporains et trouve bien ses origines dans les commandements divins? Enfin, comment faire évoluer un mode de gestion budgétaire dans son couple lorsque celui-ci ne nous convient plus? Cet épisode, je l'aime beaucoup parce qu'il nous met face à nous. Qu'il amènera nécessairement solo de discussion, mais je l'espère, de solution. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des précieux enseignements de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute. Salam alaikum, Citan, comment tu vas ?
Wa alaikum salam, Madina, ça va très bien et toi ?
Ça va très très bien, je te remercie. Citan, je suis très heureuse de te recevoir aujourd'hui parce qu'on va parler d'un sujet qui est... extrêmement intéressant, voire passionnant. C'est un sujet qui déchaîne un petit peu les passions quand on parle, quand on en parle pour les autres. Mais quand on le ramène à soi, là, très souvent, les langues, elles se figent un petit peu et il y a une espèce d'omerta. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Est-ce que toi, tu peux nous en dire un petit peu plus, Citan, sur ton contexte familial ? Parce que j'ai l'impression que quand il s'agit d'argent et du rapport qu'on a avec celui-ci, il s'agit surtout de ça. Donc, c'est quoi, toi, ton contexte familial ? Et quel a été ton rapport à l'argent ?
Alors, tout d'abord, Madina, je te remercie pour cette invitation et je te remercie de me permettre d'être le porte-voix des femmes pour parler d'argent. Donc effectivement, l'argent, c'est un sujet qui est très, 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 très important, qui est central dans notre vie. Il ne faut pas essayer de se dire que l'argent n'est pas important parce qu'aujourd'hui, de notre naissance à notre mort, on a besoin de l'argent. Donc se dire que l'argent n'est pas important, c'est un peu un non-sens quand on sait que même notre enterrement, on va devoir payer pour être enterré. Donc si je reviens un petit peu à moi, au niveau de...
Puis même ta place, hein, pardon, je t'interromps.
Tout à fait.
Mais même ton carré, tu vas le payer.
En exactement.
Fait, en réalité, tu vas le payer, tu vas le payer à vie, alors que t'es mort.
Tout à fait. Et puis c'est pareil, un autre exemple que je donne, tu restes redevable des impôts. Si tu décèdes, quelqu'un qui décède au mois de mai, sa famille sera redevable des impôts du mois de janvier au mois de mai. Donc, ça veut dire que même une fois que tu as été enterré, il va falloir faire une déclaration d'impôt et payer cette somme-là. Donc, c'est pour dire à quel point l'argent est important, surtout dans la société dans laquelle on vit. Pour en revenir un petit peu à moi, donc moi j'ai grandi dans une famille dans laquelle l'argent, enfin on ne parlait pas nécessairement d'argent. À l'époque, mon papa travaillait donc dans l'administration. Ma mère était à l'époque femme au foyer, donc elle ne savait ni lire ni écrire. Et elle s'est battue pour essayer d'entreprendre un petit peu des formations pour devenir lettrée et pour pouvoir donner à ses enfants ce qu'elle voulait. Parce qu'en fait, quand on est un couple, on peut avoir par exemple un mari qui est complètement détaché de certaines choses, une femme qui accorde une importance à ces mêmes choses. Et de ce fait, étant donné que l'époux, lui, va considérer que c'est pas important, il ne va pas avoir la volonté de dépenser pour certaines choses. Donc pour pouvoir donner à ses enfants ce qu'elle considère comme étant important, du coup il faut travailler. Et donc elle a commencé à enchaîner un petit peu les métiers qu'on va considérer comme étant un peu ingrats, tels que faire le ménage chez les particuliers. Et donc à l'époque où elle faisait le ménage chez les particuliers, c'était un petit peu dégradant pour elle, parce qu'on la prenait vraiment pour la bobonne. Voilà.
Là, donc même elle sentait.
Donc c'est des métiers qu'elle a enchaînés.
D'accord.
Ah oui, non, mais on lui faisait ressentir. C'était même pas un ressenti. C'était quelque chose.
C'était dit,
de
quoi.
Réel.
C'était acté, quoi. Il n'y avait pas de sujet.
C'était dit.
C'est pas comme s'ils faisaient semblant d'eux ou ils essayaient d'être subtils
dans
leur
ça,
mépris, quoi.
Ça.
D'accord.
Et elle s'est toujours battue pour nous donner ce qu'elle considérait comme étant important. Le voyage, par exemple, c'était quelque chose qui était important pour elle. Donc c'est quelque chose qu'elle a tenu. À nous transmettre, voilà, un petit peu
Et en quoi ton,
ma vision.
En quoi ton, t'as expliqué un petit peu en quoi ton contexte familial t'a accompagné dans tes valeurs. Moi, j'ai une autre question. En quoi ton contexte familial, par exemple, est-ce que le fait de voir ta maman trimer, parce que c'est le terme quand même, trimer pour vous offrir un avenir meilleur, elle a trimé aussi pour pouvoir se dire non, ça c'est important moi, voyager, ça c'est important pour moi, je veux que mes enfants voient ça et pour ça il y a besoin d'argent. Est-ce que toi du coup ça t'a permis de comprendre très vite que ambition, projet égale argent, ça t'a aidé à comprendre ça?
Alors je ne pense pas parce que donc quand je vois, donc nous on est 4 enfants, en fait ce qui est intéressant avec l'argent c'est que au-delà de ce que nos parents nous ont transmis, on a aussi l'interprétation qu'on en fait.
Oui.
De manière personnelle, moi, c'est vrai, très vite compris que avoir de l'argent, c'était juste avoir la possibilité d'avoir plus d'options et de mettre en place plus d'actions pour atteindre mes objectifs. Ça, c'est quelque chose que j'ai compris, mais ce n'est pas une généralité qu'on peut faire parce que deux sœurs qui ont été éduquées par les mêmes parents peuvent avoir des visions de l'argent qui sont complètement différentes.
C'est vrai.
Me concernant, effectivement, moi, je l'ai compris comme ça. Et très tôt, j'ai mis des sous de côté. Très tôt, j'ai réussi à concrétiser plein de projets qui me tenaient à cœur, dont le mariage, parce que je me suis mariée très jeune et que quand j'ai annoncé à ma mère, je ne sais pas quel âge j'avais 20 ans, je crois, quand je lui ai annoncé que je voulais me marier, elle est un peu tombée de sa chaise.
C'est vrai, elle n'a pas
dû dire.
Chose
que je comprends aujourd'hui avec le recul.
Ok. Et pourquoi elle est tombée de sa chaise, d'ailleurs
dire. C'est très jeune, en fait. En fait, quand tu as 20 ans, tu penses que tu es une adulte responsable, que tu connais la vie, mais tu ne connais rien de la vie en vrai, tu vois. Et c'est vrai que moi, je vois de ma génération beaucoup d'amis qui se sont mariés au même âge que moi.
Ouais.
Et il y a plusieurs choses. C'est le statut qu'on va accorder au mari quand on a 20 ans et le statut qu'on accorde à l'époux quand on a 30 ans. Ce n'est pas la même chose.
Mm-hmm.
Parce que quand on a 20 ans, on a tendance un petit peu à trop idéaliser les choses, à mettre entre guillemets notre destin dans les mains de notre époux, à se dire que c'est lui le chef de famille.
Ouais.
Voilà. Moi, de par mon éducation, mes parents étaient divorcés, donc j'ai pas eu nécessairement ce mode de vie-là, de me dire oui, mon mari c'est mon tout, c'est mon. Non, j'ai très vite compris que je suis un être humain, mon mari est un être humain, donc ensemble on bâtira des choses, mais seul je suis quelqu'un. En fait, je ne suis pas quelqu'un à travers le regard de mon mari, tu vois.
Bah, c'est déjà un
Donc ça, c'est
bon
quelque
départ,
chose
hein.
que moi, j'ai compris.
Ouais,
mais moi, je l'ai compris parce que, je pense, hein, parce que issu de parents divorcés, parce que, moi, j'ai vu un petit peu ma mère galérer. Ma mère, elle m'a très vite inculqué la valeur du travail et elle avait de cesse de nous répéter que, elle me disait toujours, ton premier mari, c'est ton travail. Et ça, c'est quelque chose que je comprends aujourd'hui. Parce que.
Et t'es d'accord avec ça?
Alors, dans la métaphore, je vois très bien le sens qu'elle veut me dire par rapport à ça, mais il est important, je trouve, c'est mon avis personnel, que la femme conserve une espèce d'indépendance financière qui va l'aider à se concrétiser sans avoir systématiquement l'aval de son époux. En fait, ça lui permet d'être elle avant d'être la femme d'eux. Mmh. Voilà, c'est juste ça.
Ben écoute, pour aller dans ton sens, encore une fois, ce matin-là, c'est mieux et on espère vraiment que Dieu bénisse chacun de nos propos et qu'on reste dans des propos qui le satisfassent et qui l'agréent. Amine, tu vois, on en parlait quand on a préparé cette conversation. Le simple fait que Allah subhanahu wa ta'ala autorise la femme à garder son argent pour elle en disant son argent c'est son argent et l'argent du mari c'est l'argent du couple, il y a cette j'ai l'impression qu'il y a cette notion là en fait d'autonomie, de sécurité, parce qu'on vit Allah sait comment il a créé les êtres humains et les femmes de tout temps sont des êtres qu'on aime rendre vulnérables dans les sociétés, on leur coupe les vivres, on leur coupe. Alors moi je suis pas pour considérer l'argent comme un outil de pouvoir, mais ça a souvent été utilisé comme tel. Je pense qu'il faut un peu aller à contresens de ça, mais force est de constater que faut être très candide pour se faire croire que dans la vie on n'a pas besoin d'argent pour vivre et que ça peut pas t'amener une certaine autonomie. Faut pas voir tout sous ce prisme-là, mais en tout cas j'ai quand même le sentiment que si on autorise la femme à se dire, franchement, tu n'es pas obligé de partager ton argent si tu le donnes à ton mari ou si tu le donnes dans ton foyer, c'est une sadaka, c'est-à-dire que tu es récompensé pour faire ça. Je trouve que ça va un petit peu dans ce sens-là. Après, le fait que ton premier mari soit ton travail, j'avoue, c'est la première fois que j'entends ça.
Alors, par rapport à ce que tu dis, je partage complètement ton avis. C'est que, comme tu le dis, Allah, il nous a créés et il nous connaît mieux que nous nous connaissons. C'est-à-dire que les femmes, la femme par nature, elle va avoir une facilité à faire passer l'autre avant elle.
Complètement.
Quand on fait des généralités, bien sûr. Bien sûr qu'il y a des femmes qui ne sont pas comme ça. Mais partant de ce principe.
C'est pas le gros du lot, en fait. Il faut le dire et c'est important, en fait.
Oui, oui, oui. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Mais partant de ce principe-là. Si on n'avait pas fixé de règles sur comment la femme doit gérer son argent, il est certain, je pense, que la femme aurait complètement abandonné son salaire au profit de la famille, enfin, au sens large, quoi.
Bah, c'est clair. C'est
donc
clair.
Le fait, je pense qu'Allah, il est cadré la gestion des finances de la femme, mm-hmm. C'est connaissant justement les fragilités de la femme. Et du coup, pour en revenir au premier mari, ton premier mari, c'est...
C'est ton travail.
C'est ton travail. Ça, c'est une métaphore qu'on entend en Afrique. Alors, te dire dans quel pays d'Afrique, je ne saurais pas te dire, mais moi, je sais que je l'ai déjà entendu de la part d'autres personnes. Et je pense que c'est quelque chose qu'elle nous a dit, connaissant également la situation précaire dans laquelle les femmes peuvent se retrouver mm-hmm. quand tout ne va pas comme on le voudrait, parce que elle a fini divorcée. Avec le divorce vient forcément la précarité. Quand on est une femme qui ne sait ni lire ni écrire et qu'on se débrouille, vient avec ça une certaine précarité. Bien. Et quand on s'abandonne complètement et qu'on se met entre parenthèses, on ne participe plus à la vie de la société, on ne fait plus rien pendant des années. Quand du jour au lendemain, on est touché par ce type d'épreuve-là, comment on rebondit? Donc c'est dans ce sens-là, en fait, qu'elle me disait ça, pour toujours conserver une certaine forme d'indépendance, parce qu'on n'est pas à l'abri du décès de l'époux, on n'est pas à l'abri de se séparer un jour. Et donc voilà. Alors, malheureusement, les statistiques
le prouvent.
Sont...
Enfin, par les...
Le prouvent.
Ouais.
On aimerait bien que ce soit autrement, hein. Mais les statistiques le prouvent, 40% des couples finissent par divorcer. Mmh. Alors bien entendu, quand on se marie, on n'est pas en train de se dire « je me marie en songeant à mon divorce », pas du tout. Mmh. Mais au-delà de ça, et on y reviendra tout à l'heure, je pense, par rapport au mode de gestion et de pourquoi je vais, moi, de manière personnelle, plus préconiser de ne pas tout mutualiser. Mais il est important que la femme considère en fait qu'elle est elle et qu'elle ne vit pas à travers le regard de son mari.
Ouais, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, je rajouterais juste deux choses. La première, c'est que au terme indépendance, je préférerais, mais c'est peut-être personnel, le terme sécurité. C'est-à-dire que faut pas toujours se dire. C'est cette sécurité de se dire. Et comme tu l'as dit quand tu as fait ton hajj, cette maman qui t'a dit même quand tu as un premier pas, il faut un deuxième. C'est-à-dire que la sécurité financière qu'apporte le mari, et on le rappelle, ceci est son devoir d'époux, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais encore une fois, cette sécurité-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous l'offre. Donc pourquoi l'acheter à la fenêtre en fait? C'est-à-dire qu'encore une fois, tu l'as très bien dit, Allah il nous connaît mieux que personne. Donc cette sécurité-là, si Allah nous demande de l'avoir, en tout cas nous la propose, c'est pas un ordre, mais il nous enjoint à la conserver. C'est pas pour rien en tout cas que l'on médite tous, chacun et chacune là-dessus, en se disant, parce qu'en fait je voudrais pas que les gens se disent oui, encore un discours où on dit aux femmes, faut que t'assures tes arrières, parce que honnêtement moi j'ai mis du temps à comprendre ça, hein, pour être très honnête, moi je suis un peu fleur bleue, et d'ailleurs je vais donner une petite anecdote personnelle, mais une fois, on discutait avec mes parents et en fait on parlait d'un couple, d'amis, enfin de mes parents. La femme avait sa maison au Sénégal et le mari avait sa maison au Sénégal. Et moi, naïvement, je dis, mais je comprends pas pourquoi ils n'ont pas une maison ensemble. Quand on achète une maison, le but, c'est de l'acheter à deux, etc. Vision très occidentale de la vie, hein, on en conviendra. Mais et à ce moment-là, mes deux parents, et surtout mon père, il a un peu ri en coin, tu vois. Et ma mère, c'est ma mère qui a répondu en disant, non, mais Madina, pourquoi tu crois que la femme, elle achète sa maison toute seule? C'est parce que on a trop vu des femmes qui ont acheté avec leur mari, et leur mari, il a pris une deuxième et il l'a installée dans la maison que toi aussi, t'as payée. Donc, je peux te dire que tu fais la soupe à la grimace. Et je me suis dit, Donc, en fait, je pense que le cœur de notre propos, c'est pas de se dire quand tu te maries, pense à quand tu divorceras ou pense que peut-être tu vas divorcer, mais c'est de se dire, conserve ta sécurité. Allah, il t'a fait venir en tant que personne. Ton mari est une personne. Si tu le peux, conserve ta sécurité. Après, il y a des couples qui sont pas dans cette optique-là. On le verra plus tard et pour qui ça se passe très bien.
Oui, mais alors, le terme indépendance, effectivement, moi, je l'emploie pas en mode féministe, girl power. Ouais, les hommes, ça sert à rien. Pas du tout.
Mais c'est important de le préciser parce que c'est souvent perçu comme ça en 2022, tu vois.
Oui, bien sûr, bien sûr. Mais par indépendance, j'entends aussi le simple fait de disposer de son argent sans avoir à comme monter un dossier de prêt auprès de son époux pour un projet qui nous concernerait de manière personnelle. Juste ça, c'est une forme d'indépendance en fait. J'ai de l'argent et j'en dispose de la manière qui me convient, sans avoir à te demander ton aval. Donc en vrai, c'est pour moi, au-delà de la sécurité, c'est l'indépendance. Parce que quand je parle d'indépendance, ce n'est pas uniquement lié au divorce. Le divorce, effectivement, c'est le cas le plus critique vis-à-vis du mariage. Mais quand on se marie, avant d'en arriver là, et je souhaite à tous les couples, bien sûr, qui finissent avec leur époux et leur épouse, mais avant d'en arriver là, mais je parle dans la vie de couple de tous les jours, on va avoir des envies qui sont parfois différentes de celles de notre époux. Et pour pouvoir les concrétiser, bah, si on n'a pas notre propre argent, ça devient très ça peut être très compliqué.
C'est super que tu le précises ainsi, parce que je pense qu'il y a énormément de personnes qui vont se reconnaître dans ton propos. Et je pense que, tu vois, mon discours, c'est plutôt le discours d'une femme qui est célibataire, je pense, et qui n'a pas cette réalité du mariage. Et ton discours, c'est un discours de femme aussi qui est dans le mariage depuis plus de 10 ans maintenant, voire plus de 15, donc félicitations. Et c'est aussi l'expérience qui parle, donc machallah, je pense que c'est deux apports qui sont très enrichissants, alhamdoulilah. Si on repart sur la question de l'argent plus précisément, tu as quand même accompagné pas mal de personnes, que ce soit en accompagnement individuel ou à travers tes formations dont on parlera plus tard. Ma question, c'est, au vu de ce retour d'expérience, quelles sont, selon toi, les origines, les causes d'une mauvaise gestion de l'argent? Et ma deuxième question, c'est finalement, c'est quoi une mauvaise gestion de l'argent?
Alors, les origines et les causes, j'avais écouté un podcast avec une psychologue qui avait parlé un petit peu de quelle est la perception qu'on a de l'argent. Et en fait, c'était très intéressant parce qu'elle nous expliquait que la perception qu'on va avoir de l'argent, elle est liée à ce qu'on appelle les 3 C. Le premier C, c'est le C de culture. Le deuxième C, c'est le C de conditionnement. Et le troisième C, c'est le C de... Ça m'échappe, mais ça me reviendra.
Ok.
Et si on revient sur la culture, c'est un petit peu le pays dans lequel on a baigné. Donc nous, qui sommes français, ben on a baigné dans une culture dans laquelle l'argent est tabou.
Oui.
Et on le sait,
oui.
C'est quelque chose qui date vraiment de l'époque. Donc que ce soit vis-à-vis de la religion ou vis-à-vis de la culture en France, l'argent est tabou.
Oui.
Donc nous qui sommes nés et qui avons grandi en France, on a baigné dans cette culture-là, qu'on le veuille ou non.
Oui, c'est vrai, c'est une réalité.
Donc ensuite, le deuxième C, c'est le C de conditionnement. C'est en quelque sorte ce qui nous a été infusé par nos familles.
Ouais, c'est le foyer en fait.
Et
le premier C, c'est l'externe, c'est l'environnement ambiant externe. Et le deuxième C, c'est plutôt ton environnement, mais interne. Comment l'argent est géré au sein du foyer.
Et c'est exactement ça.
Ok.
Donc, est-ce que l'argent était tabou au sein du foyer? Comment mes parents ont géré l'argent? Est-ce qu'il y a eu des dettes? Est-ce que on a vécu avec beaucoup de découverts? Est-ce qu'on se vantait d'avoir de l'argent ou est-ce qu'au contraire, on le cachait? Voilà, c'est toutes ces questions-là qui vont faire que le deuxième C de conditionnement va avoir un impact sur la manière dont nous, on va gérer notre argent en tant qu'adulte.
Ouais.
Et on le voit, par exemple, au niveau des frustrations qu'on a pu ressentir en tant qu'enfant.
Ouais.
Et ben, la première chose qu'on va faire quand on aura accès à notre argent, ben, c'est de vouloir, entre guillemets, rattraper le temps perdu en consommant, 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 et sans penser au lendemain, parce qu'on ne nous a pas appris que l'argent était quelque chose dont on pouvait disposer pour accomplir de grands projets. Et puis même, les projets nous paraissent parfois tellement immenses qu'on se dit que, bah, qu'on ne pourra pas les atteindre. Et du coup, le troisième C, c'est les croyances vis-à-vis de l'argent.
Ah,
qu'on a vis-à-vis de l'argent.
Okay.
Est-ce que l'argent est sale? Est-ce que quelqu'un qui est riche, c'est une bonne personne ou une mauvaise personne? Voilà, c'est toutes ces images-là qui vont conditionner notre vision de l'argent et notre gestion de l'argent. Et moi, ce que je remarque, hein, c'est que, alors, bien que je ne vise aucun
profil
culture ou religion particulière,
ah, oui, okay.
C'est ça, bah, forcément, tu sais, sur les réseaux sociaux, on va avoir tendance à attirer ce que l'on est. Alors, moi, je suis une femme noire. Musulmane voilée. Donc les gens vont avoir plus de facilité à s'identifier à moi et à me faire part de problématiques que quelqu'un qui a grandi vraiment avec des parents franco-français ne comprendra pas. Exemple, les problématiques qui peuvent relever de la polygamie par exemple,
ouais.
Qui est quelque chose qui fait partie de nos cultures, de nos sociétés, de notre religion. Bah, c'est des questions auxquelles moi je vais pouvoir. C'est des questions que je vais comprendre en fait.
Ouais.
On va pas passer trop de temps sur la justification de mais pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Non, j'accepte la chose. Je comprends qu'il peut y avoir des plaies liées à ça. Et du coup, bah, on va essayer de mettre en place un cheminement pour comprendre pourquoi on a tel ou tel agissement vis-à-vis de l'argent et comment guérir un petit peu sa relation à l'argent.
Ouais, parce qu'en fait, le but, c'est pas de s'attarder sur l'un de ces C, mais c'est de le solutionner, en fait. Et donc, forcément, quand on va vers toi si tant, alors qu'on est une femme d'origine ouest-africaine et de confession musulmane, on se dit, elle va comprendre, on va pas s'attarder 3000 ans sur pourquoi tes parents, ils envoyaient de l'argent au pays, et pourquoi si, et pourquoi
exactement.
Ça. L'idée, c'est de trouver une porte de sortie. Et alors, justement, c'est intéressant ce que tu dis sur les 3 C, parce que je pense qu'on est beaucoup à pas connaître cette explication-là. Ma question, c'est est-ce qu'il y a un C qui prend le plus le pas sur l'autre? Je répète, croyance, conditionnement, culture.
Non, c'est un cocktail, en fait.
D'accord, d'une personne à l'autre, il n'y a pas forcément...
voilà,
okay,
c'est ça.
D'accord, ça change d'une personne à l'autre.
Et puis, voilà, c'est complètement inconscient, mais c'est vraiment ce qui va conditionner notre vision et notre gestion liée à l'argent.
D'accord. Et pour toi, pourquoi c'est difficile finalement d'avoir... Donc là, on a compris que quelque part, la mauvaise gestion de l'argent, c'est... c'est toujours en rapport, en tout cas, avec ces trois C-là. C'est-à-dire que, moi, si je prends mon exemple, on va essayer d'être concret. Si je prends mon exemple, moi, j'ai un rapport à l'argent qui est très lié au fait que dans le pays dans lequel j'ai grandi, qui est la France, l'argent, ça se mérite. Tout travail mérite salaire. J'entends ça depuis que je suis très, très jeune. Et depuis, aujourd'hui, en tant qu'adulte, j'ai énormément de mal à me défaire de cette croyance. Et parfois, alors que parfois, elle est antinomique avec mes principes religieux, où on me dit que le rizq, l'abondance, en arabe, provient d'Allah, d'Ar-Razaq, celui qui pourvoit en permanence. Le deuxième C, c'est, je vois dans ma culture, depuis que je suis jeune, et ça, tu vois, je le réalise en même temps que je te parle, l'argent passé de main en main. C'est-à-dire que l'argent, des fois, on a l'impression que chez nous, ça nous brûle les doigts. Et même quand on était petit, on ne connaissait pas le système des tontines, mais on voyait parfois nos parents sortir des liasses de billets, et donc on avait l'impression que c'était hyper riche, ou que l'argent, c'est quelque chose d'assez facile, et que ça tournait assez librement. Et donc aujourd'hui, moi, Madina, en tant qu'adulte, j'ai parfois ce rapport à l'argent où le don, c'est quelque chose... quand tu ne donnes pas, c'est que tu n'es pas une bonne personne, ou en tout cas, l'argent doit circuler, ce qui est vrai dans une certaine mesure, mais attention quand tu le fais trop circuler sans penser à toi en fait. Et la dernière chose,
ben exactement.
La dernière chose où moi c'est vraiment lié, là pour le coup c'est très personnel, c'est que la manière dont nous on a grandi chez nous, donc famille nombreuse, l'argent était assez était rationné. C'est-à-dire que j'ai pas eu des parents qui ont, et jusqu'à présent franchement alhamdoulilah, ça c'est vraiment une grande chance que j'ai, moi j'ai pas des parents qui ont un rapport avec l'argent où tous les mois ils vont te demander de passer à la caisse, on dirait que c'est l'URSSAF et tout ça. Je sais qu'il y a pas mal de parents qui sont comme ça, enfin pas mal, en tout cas moi j'ai des amis qui vivent ça. Moi, je n'ai pas du tout eu ça, mais force est de constater que quand on est 8, bah forcément, les dépenses, elles sont réfléchies, elles sont rationalisées. Et moi, aujourd'hui, je sais que parfois, j'ai un problème avec la frustration parce que bah, j'ai le sentiment que quand j'étais plus jeune, sur certains aspects de ma vie, j'ai été frustrée du fait du manque d'argent slash de la limite d'argent qui était quand même assez, à dire assez basse. Et ça, aujourd'hui, je vois que quelque part, ça a fait de moi une mauvaise gestionnaire de mon argent. Mais justement, pour revenir au mauvais gestionnaire de l'argent, moi, j'ai ma propre définition de la mauvaise gestion de l'argent. Est-ce qu'il y a une définition objective de la mauvaise gestion de l'argent pour les gens qui nous écoutent ?
Alors, pour moi, quelqu'un qui aurait une mauvaise gestion de l'argent, c'est quelqu'un qui dépense plus que ce qu'il ne gagne, voire qui n'épargne pas tous les mois.
On est d'accord.
Quel qu'en soit
Parce
le montant.
Parce que tu vois...
Parce que c'est pareil, la première chose qu'on va faire quand on va apprendre, c'est ça, parce que la première chose qu'on va vouloir faire quand on va se dire qu'il faut qu'on remette de l'ordre dans ses finances, c'est bien entendu demander à notre ami Google comment apprendre à gérer ses finances. Ah bah, là, on va avoir plein de méthodes, plein de « faut faire comme ci, faut faire comme ça, faites comme ci, faites comme ça ». Et moi, je suis un peu contre ça. Et dans la méthode que j'ai créée, moi, c'est plutôt une méthode où on va responsabiliser les gens, en fait. Je pense qu'il faut qu'on arrête de poser notre cerveau sur la table et qu'on réfléchisse par nous-mêmes. La solution, elle ne nous tombera pas toute cuite dans le bec, et ce qui convient à une personne ne conviendra pas à une autre personne. On le voit dans les méthodes de gestion. Par exemple, il y a une méthode qui est la méthode des enveloppes. Donc, c'est la méthode des grands-mères, hein, qui consiste par exemple à se dire « Ok, ce mois-ci, mes dépenses plaisir, c'est 200 euros, donc je vais retirer les 200 euros en espèces, les mettre dans une enveloppe, les dépenser de cette manière-là, et lorsque les 200 euros seront terminés, eh ben c'est terminé. Ouais. Donc ça, c'est une méthode qui fonctionne pour des personnes, mais elle ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc en fait, il ne faut pas essayer de copier ce qui marche chez les autres. Il faut savoir qui je suis, qu'est-ce qui fonctionne chez moi, connaître ses forces, mais aussi ses faiblesses, et en fonction de ça, se constituer sa propre méthode de gestion financière.
Complètement. Mais en fait, je pense que c'est un peu, les femmes noires me comprendront, c'est un peu comme quand tu passes au naturel. C'est-à-dire que quand tu décides de connaître tes cheveux et d'arrêter tout ce qui est défrisage, etc., tu repars de zéro parce que nos mères, elles nous ont pas appris à nous occuper de nos cheveux. Elles ont appris à les tresser, etc., à les embellir, mais pas à nous en occuper. Et du coup, on repart de zéro. Et en fait, quand tu repars dans ce monde-là, Tout le monde te dit, alors l'huile de coco, c'est génial. Ah, mais non, en fait, l'huile de ricin, c'est nul. Ah, mais en fait, alors qu'en fait, ce sont des vérités qui vont pas à tout le monde. Peut-être que moi, sur mes cheveux, l'huile de coco, c'est extraordinaire. Sur toi, si tant, tu vas dire, laisse tomber, ça me fait un truc, c'est beaucoup trop gras. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes cheveux. De manière plus générale, par exemple, on n'a pas tous la même peau. Si t'as la peau grasse, si t'as la peau sensible, tu vas pas mettre les mêmes
Exactement.
soins. Et je pense que pour son rapport à l'argent, c'est la même chose. Mais tu vois, t'as dit vraiment des choses très intéressantes. Et j'aimerais, si c'est possible, qu'on puisse du coup avoir une définition au vu de ce qu'on s'est dit là sur la bonne gestion de l'argent. J'ai quand même l'impression qu'une bonne gestion de l'argent, c'est quoi? C'est le fait de d'épargner. Après, c'est à toi de voir quel est le montant d'épargne qui est raisonnable, important, réaliste pour toi. Et la deuxième chose qui pour moi est très importante que tu as dite, c'est en fait, moi j'ai l'impression qu'en fait une bonne gestion de l'argent, c'est quand tu laisses pas l'argent te dépasser. C'est-à-dire que c'est à toi de décider où va ton argent. C'est pas tu dépenses, et ah, j'ai plus rien, ah bah comment je dois faire, ah bah non. C'est reprendre le contrôle, de toute façon, moi je dirais jamais assez,
Exactement.
Qu'on reprenne le contrôle sur nos vies, d'accord ? On reprend le contrôle sur qu'est-ce qu'on consomme en tant que divertissement, on reprend le contrôle sur beaucoup de choses, et ça passe aussi par reprendre le contrôle sur ce que j'aime. C'est pas parce qu'on m'a montré 10 fois sur Instagram ce produit-là que je dois le prendre.
Tout à fait, tout à fait. Alors, et pour en revenir un petit peu à ce que représente pour moi le fait de bien gérer son argent, ça passe par 1, la connaissance de soi déjà.
Ouais.
Qui je suis, quel regard j'accorde, quelle importance j'accorde au regard des autres.
Oui.
Parce que, qu'on se le dise, hein, dans notre consommation, il y a énormément d'achats qu'on fait pour plaire à la société, pour plaire à nos parents, pour plaire aux gens de manière générale. Mais moi, où je suis dans tout ça, tu vois ? Donc la connaissance de soi, pour moi, c'est primordial. Et dans la connaissance de soi, qu'est-ce qui est important pour moi ?
Ouais.
Dans quoi j'ai envie de capitaliser ? Et je pense que beaucoup des personnes qui nous écouteront font partie de la communauté musulmane, mais ne serait-ce qu'accomplir le hajj.
Ouais.
On sait combien ça coûte maintenant. Les prix ne cessent d'augmenter. Mais si, en tant que musulman, on ne se met pas l'intention de l'accomplir, est-ce qu'on se dit, ouais, bah, de toute façon, ça coûte cher, c'est que pour les autres, et puis moi, j'y accéderai jamais? Non, bien sûr que non. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, on met en place un plan d'action pour pouvoir atteindre son objectif, même si c'est mettre 100 euros par mois. On ouvre un compte, on appelle le compte Hajj, et tous les mois, on met 100 euros dessus. Donc, voilà la cagnotte, on voit la cagnotte monter. C'est gratifiant, c'est motivant.
Complètement.
Et au bout de quelques années, on parviendra à cet objectif-là. Mais si nos objectifs restent des rêves dans notre tête et qu'à aucun moment on met en place les actions nécessaires pour les atteindre, bah effectivement, on restera toujours au rez-de-chaussée, en fait.
Ouais.
Donc, la connaissance de soi, le fait d'avoir une vision claire des objectifs qu'on souhaite atteindre, la connaissance de ces chiffres, parce que beaucoup de personnes savent combien elles gagnent, mais alors quand on leur pose la question de savoir combien elles dépensent, elles sont dans l'approximation. Bon, à peu près tant d'euros pour les courses, à peu près tant d'euros pour ceci, tant d'euros, non.
Ouais.
Là, il faut que les chiffres soient clairs. Combien tu dépenses dans ton alimentation, combien tu dépenses dans ta voiture, combien tu dépenses pour tes enfants. Tout ça, c'est des chiffres qui doivent être vraiment clairs et définis. Et un point qui, pour moi, est très important, c'est l'anticipation. Parce que on va pas attendre le mois de juin pour payer ses vacances de d'août, par exemple. On le sait que les vacances, les grandes vacances, on le sait. C'est juillet, août.
Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas un suspense de ouf. Si tu as des enfants, en tout cas, tu sais très bien qu'à priori, si tu pars, c'est pas en mars, tu vois.
C'est ça. Il n'y a pas de suspense.
Ouais.
Juillet, août. Mm. Mais pourquoi on attend juin pour commencer à se dire « Ah, bah oui, mais le budget, il va être ric-rac. » Non,
ouais.
Il faut s'organiser.
Et puis, en fait, quand tu t'organises pas... Pardon, mais quand tu t'organises pas, il y a deux choses. Franchement, c'est hyper important ce que tu es en train de dire là, Citan, parce que moi, je l'ai compris en écoutant tes interventions, en regardant tes formations. Et depuis, franchement, ma vie, elle a changé. Parce que tu vois, comme je disais, parfois, j'avais des problèmes à gérer ma frustration en disant, mais moi, si je veux ça, pourquoi je peux pas me l'acheter? Et en fait, tu réalises que tu gères ta carte bleue avec des frustrations d'un enfant de 6 ans, ce qui est quand même assez problématique en soi. Et en fait, quand tu as des objectifs en te disant, ah non, mais moi, je vais faire le hajj. Mais t'as pas envie de mettre ton argent n'importe où. Tu dis, non, mais là, j'ai un projet de
exactement,
ouf.
C'est exactement ce que j'en fais.
J'ai pas le temps, là, en fait, de... je m'en fiche, là, de... la frustration n'en est même plus une. Et ça, les amis, c'est fort, en fait. C'est trop bien.
C'est exactement c'est exactement ce que j'enseigne. Comment gérer la frustration? Alors, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tout le monde entier, même Jeff Bezos, il a des frustrations.
Tu crois?
Tout le monde en a.
Oui, oui.
Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le fait de gagner peu d'argent qui va faire qu'on aura... Alors oui, bien entendu, on va avoir peut-être plus de frustration qu'une personne qui a beaucoup d'argent.
Mais, réalité, ouais. Ouais,
ouais. Plus on gagne de l'argent, plus on dépense et plus nos besoins augmentent.
Okay, oui.
Alors quand je parle des besoins, je parle bien entendu pas des besoins primaires.
Oui, oui.
Mais nos besoins secondaires vont, par définition, augmenter.
Et parfois, c'est ceux qui coûtent les plus chers. Hein. Parce que tu vois, si t'achètes ta maison avec piscine ou t'as un manoir où les gens doivent venir s'occuper de ta maison, bah ouais, tes frais coûteront beaucoup plus cher que si t'avais ton petit pavillon, quoi.
Ah oui, exactement. Exactement. Bah, de toute façon, quand tu gagnes plus d'argent, ton niveau de vie, forcément, il va augmenter.
Exactement.
Et les frustrations vont être différentes de celles qui, effectivement, est au RSA, mais ouais. Il y aura quand même des frustrations.
Complètement.
Ça, c'est clair.
Ouais.
Et il faut comprendre que la frustration, elle fait partie de la vie, en fait. C'est que, par exemple, on ne peut pas être parent d'enfant, dire à son enfant « je ne peux pas t'acheter tel jouet » et se refuser à soi, en tant qu'adulte, de se dire « je peux pas… » On va pas se rouler par terre parce qu'on peut pas acheter la dernière robe à la mode sur Instagram.
Ouais.
C'est un non-sens, en fait.
Ouais, complètement.
Et à partir du moment où on a défini nos objectifs comme étant quelque chose d'important et de très, très, très important, bah, on n'aura aucune difficulté à mettre de côté cette 45e robe chez Zara, bah, pour pouvoir mettre notre argent au profit de quelque chose qui nous tient réellement à cœur.
C'est clair. Et ben en plus, tu vois, ça recoupe avec ce que tu disais, le fait de se connaître soi. En plus, je trouve que c'est hyper beau parce qu'en fait, tu abandonnes des frustrations qui sont parfois liées donc soit à tes traumas, soit au regard des autres, pas génial, pour un projet qui fera ton bonheur à toi, en fait, ou qui te complétera toi, en fait. Et ça aussi, c'est super beau. Et je trouve que ça donne presque une poésie, en fait, à l'argent de le voir ainsi.
Exactement, exactement. Alors avec l'argent, comme je le dis, hein, l'argent est un outil. L'argent ne rendra pas les gens mauvais. Je pense par contre que c'est un exhausteur. Donc si le fond de la personne est mauvais, alors bien sûr que quand elle aura beaucoup d'argent, elle aura plus de facilité, enfin plus de chances d'accomplir de mauvaises choses. Mais si on est une bonne personne et que demain on vient à manipuler beaucoup d'argent, et bah c'est plus d'opportunités d'accomplir de belles choses. Alors non pas qu'il faille tomber dans la course aux richesses, hein, c'est pas du tout ce que j'encourage.
Bien sûr.
Mais juste de se dire que qu'avoir de l'argent, ça ne fera pas de nous de mauvaises personnes, quoi.
Alors moi, j'aimerais apporter quelques petites nuances là-dessus parce que je suis d'accord en substance, mais je pense quand même que l'argent est de toute façon, comme tout risque en fait, comme toute subsistance, comme tout cadeau, le mariage, les enfants, l'argent, c'est aussi une épreuve. C'est-à-dire que tu peux être une... Alors, a priori, franchement, pardon, mais si t'es un rat quand t'as pas d'argent, tu seras pas le roi des généreux, a priori, hein, quand t'as beaucoup d'argent. Ça, c'est vrai que ça fonctionne quand même souvent en parallèle, tu vois. Si t'aimes pas dépenser ton argent, c'est que souvent t'as des traumas que t'as pas réglés, et quand t'as de l'argent, ils seront pas plus réglés a priori. En revanche, quand soudain tu as plus d'argent, c'est aussi une épreuve aussi, c'est une responsabilité déjà. Je pense qu'Allah nous demande aussi, on nous demandera qu'est-ce que t'as fait de cet argent. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est quand même une épreuve. Moi, je suis moins... en tout cas, je trouve que c'est moins automatique de dire si t'es généreux avant, tu seras généreux après. C'est possible. C'est peut-être même souvent le cas, mais ça peut être aussi une épreuve de se dire bah, ça ne me dérangeait pas de partager mon orange quand j'étais petit, quand je n'avais pas beaucoup de moyens. Quand j'ai quelque chose d'un peu plus grand, je peux me dire oui, maintenant je l'ai mérité. Encore une fois, on revient sur le tout travail mérite salaire. Je ne l'ai pas volé, c'est mon argent. Donc je ne suis pas non plus obligée de partager à la hauteur de ce que je partageais avant. Tu vois. Ça pour moi, c'est.
Mais de toute façon. Même la richesse, elle est encadrée religieusement.
Exactement, je voulais en parler.
Ce qu'Allah nous demande, c'est de nous acquitter de la zakat.
Oui.
Le montant, il est défini, le taux, il est défini. Mm-hmm. Et ça, l'obligation, elle réside dans ça.
Ouais.
Mais si la personne, après, elle est extra super riche et qu'au mois le mois, elle ne donne pas, c'est dommage. Mais ce n'est pas de l'obligation, en vrai. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais. En fait, c'est dommage pour
La
elle.
personne, elle va s'acquitter de sa zakat,
Ouais.
donc c'est dommage pour elle, parce qu'elle loupe des occasions
Bah,
de
d'avoir des
partage, de
hassanets, même des,
chesed,
ouais, de
de...
récompenses, de rendre
Exactement,
peut-être des gens heureux
exactement.
autour de soi. Mais t'as raison, c'est intéressant ce que tu dis, c'est pas une obligation. Et je pense que vraiment, c'est intéressant ce que tu dis là parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, moi la première, il y a tu vois, cette culpabilité. Tu vois, on n'ose pas gagner trop d'argent. Parce que ben l'argent c'est pas ouf et si t'as de l'argent presque ça te brûle les doigts quoi. Faut que tu le partages mais c'est dommage parce que quelque part quand tu fais ça est-ce que tu le par si tu le par je pense qu'une partie de toi parce qu'il faut pas être trop binaire une partie de toi le partage parce que tu veux tes hasanettes tu sais que c'est très récompensé qu'Allah aime ça ce sont des actions qu'Allah il aime et qu'en plus on nous le dit en islam hein, donner ça augmente son risque son abondance donc
Exactement,
tu vois quand tu le vois
exactement.
comme ça c'est quand même assez sympa de donner mais il y a quand même une partie de nous je pense qui donnons pour s'excuser en fait. On s'excuse d'avoir trop d'argent. Donc je le donne un petit peu, ça fait de moi une personne plus intègre parce que à ce qui paraît quand on a trop d'argent, on décolle plus du enfin on décolle du sol, on oublie d'atterrir, ça fait de nous des gens vicieux, ça fait de nous des gens qui sommes trop importants pour les autres et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'on doit soigner.
C'est exactement, et ça revient au C de croyance, en fait. Quelles sont les croyances qu'on a vis-à-vis des gens
Ouais.
qui ont beaucoup d'argent?
Ouais. Bah je
Pareil, hein, c'est des visions qu'on a, mais parfois on n'a jamais même fréquenté quelqu'un qui a beaucoup d'argent. On ne sait même pas d'où ça vient, finalement.
Ouais.
D'où viennent toutes ces croyances-là?
Bah, en fait, je pense, bah, franchement, ça vient de. Je pense que souvent, ça peut venir de ton éducation. Tu vois, comment tes parents ils parlaient des gens qui ont de l'argent quand ils regardaient la télé. Ça, mine de rien, tu crois que ça t'a pas touché,
Exactement.
mais c'est rentré dans ta tête et c'est jamais
Exactement.
ressorti. Ça peut venir de comment on traite les riches à la télé. Tu vois, moi, quand je lisais des livres quand j'étais plus jeune, etc., tu sais, parfois, les nantis, c'est pas les plus sympas, hein. Et bah ça aussi, ça reste dans ta tête en fait. Les personnes qui ont beaucoup d'argent, elles sont pleines de dédain, etc. Charlie et la chocolaterie. Enfin, voilà, Charlie, il avait vraiment zéro, zéro, zéro argent, tu vois. Et pourtant, c'est notre personnage préféré, tu vois. Donc je pense qu'il y a des choses comme ça qui ont une influence sur les 3 C que tu as évoqués. J'ai vraiment voulu. Vous savez, ce podcast, c'est un podcast à la base sur l'amour, dans le mariage et l'amour en général. Mais ça me tenait vraiment à cœur qu'on passe du temps sur la gestion de l'argent à titre individuel. Parce que, de toute façon, tu l'as dit en introduction, citant, et c'est aussi une de mes croyances, Allah, il nous a fait venir en tant qu'entité seule. Et c'est important. Enfin, à mon sens, d'avoir un bon rapport à l'argent seul avant d'entrer en ménage. Et si on est déjà en ménage, c'est pas grave, on peut se réparer pour rendre son ménage un peu plus fort. Qu'en penses-tu?
Je suis complètement d'accord avec toi. Mais alors c'est vrai que la grande difficulté, c'est que quand on fait le travail sur soi, c'est de se demander quel est le travail que l'époux il a fait sur lui vis-à-vis de sa relation à l'argent à lui.
C'est une question qu'on doit
Parce
se
que ça, c'est
poser
des
pour toi?
choses. Oui, alors comment l'amener ou comment s'en apercevoir? C'est vrai que c'est, on va dire, des choses qu'on va voir plus en vivant avec la personne. Mais il y a quand même des questions à se poser vis-à-vis de ça, ne serait-ce que en termes de gestion.
Ouais.
Comment le conjoint il voit la gestion de l'argent? Parce que la problématique, c'est que les femmes qui n'ont pas d'éducation financière, qui ont la volonté de bien faire, peuvent parfois se marier, se retrouver à mutualiser l'intégralité de leurs revenus avec les revenus de l'époux. Donc on met tout dans un pot commun.
Ouais.
Et puis, les années passant vont vouloir récupérer leur argent parce que de base, Allah a dit que leur argent, c'était pour elles.
Ouais.
Et quand on veut changer de mode de gestion, là, on peut parfois rentrer
Dans des
dans des
conflits.
conflits, en fait.
Ouais, complètement. Ça allait être une de mes prochaines questions, mais on peut se la poser tout de suite. C'est-à-dire que quand on a préparé l'enregistrement, toi, tu m'as confié que toi aussi, tu as changé aussi ta manière de faire. Je pense que on en revient à ce qu'on se disait en début de conversation, c'est que si parfois quand tu te maries un peu dans ta vingtaine, je dis pas qu'il faut pas se marier jeune, hein, je tiens à préciser quand même mon propos, je pense pas qu'il faille se marier jeune, en revanche je pense qu'il faut apprendre à se connaître bien plus tôt, et je pense qu'il faut travailler sur notre maturité émotionnelle bien plus tôt. Notre problématique, à mon sens, il est plutôt là, mais en tout cas toujours est-il que quand tu viens dans ton mariage à 20 ans, déjà t'as pas beaucoup bossé sur toi, je te parle même pas d'éducation financière, et donc parfois tu fais des erreurs. Et quand tu veux corriger le tir, quand je dis des erreurs, ça peut être justement le fait d'oublier le fait que ben Allah il t'a enjoint à travailler ta sécurité, ton indépendance, comme tu le travaillais, comme tu l'expliquais tout à l'heure. Et toi, tu te dis, ah ben mon mari, c'est mon début, c'est ma fin. Le mariage, c'est mon début, c'est ma fin. Donc du coup, je mets tout dans un pot commun. Et le jour où toi, tu veux changer parce que tu as des projets à titre personnel, ton mari te regarde, dit, bah non, on est bien là. Pourquoi tu veux changer? Honnêtement, je dis le mari parce Exactement. Que c'est quand même, franchement, 9 fois sur 10, pardonnez-moi les frères, hein, on n'est pas là pour vous fustiger, mais c'est juste, non voilà, mais c'est juste, soyons objectifs, disons-nous les choses. Très souvent, c'est les frères qui ont du mal là-dessus à changer, à évoluer. Donc, Sidran, est-ce que tu as des conseils pour les sœurs qui souhaitent un peu justement rectifier le tir, changer? Ça ne veut pas dire qu'elles veulent se séparer de leur conjoint, mais si on vous aime beaucoup, mais parfois il faut évoluer. Comment on fait, Sidran?
Alors, déjà pour les causes, pour que tout le monde comprenne, c'est que quand on mutualise l'intégralité de ce qu'on gagne avec l'intégralité de ce que l'époux gagne, qu'on met tout dans un pot commun, que tous les prélèvements partent sur ce compte-là, et que quand la femme a envie de se faire plaisir, elle achète les choses avec cet argent-là, il n'y a pas de mal à ça. Sauf que quand la femme elle a un projet, on va dire, de un peu plus grande envergure et qu'elle a envie de dépenser par exemple 150 euros ou non 1500 euros dans une formation en ligne et qu'elle va dire à son mari je vais dépenser
nos 1500 euros
1500 euros
c'est ça
voilà nos 1500 euros
bien sûr
qu'il a son mot à dire en fait parce que c'est aussi son argent et c'est dans ce sens-là que je dis qu'il est important d'avoir une certaine indépendance. Donc on peut mutualiser une partie mais également conserver une partie pour soi. Et pour moi, ça, c'est très important. Et que ce soit pour l'homme ou pour la femme.
D'accord.
Parce que dans le cas contraire, lorsque monsieur, par exemple, décide de changer de voiture et de se dire, bon, on va prendre 10 000 euros de l'argent qu'on a de côté parce que moi, j'en ai marre de notre Renault, j'ai envie de m'acheter une Mercedes. Non. La femme, elle est aussi en droit de dire non parce que c'est également son argent qui est dedans. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est important que chacun conserve une certaine indépendance, que ce soit l'homme ou la femme.
Okay.
Lorsque on a déjà tout mutualisé et qu'on a envie de sortir de ce schéma-là, alors je pense que, de toute façon, comme tout, hein, le dialogue, le dialogue, le dialogue. Il faut essayer de ne pas heurter, parler de religion également, parce que de toute façon, les règles, elles sont claires vis-à-vis de ça. Et également, faire comprendre à son époux que lui aussi a son intérêt dedans. Parce que lui aussi, il aura peut-être des projets personnels qu'il aura envie d'accomplir sans avoir à demander l'accord à sa conjointe. Parce qu'en fait, là, on se retrouve un petit peu dans un système où on est limite obligé de monter un dossier de prêt. Alors que, en fait, c'est notre argent.
Puis on n'est pas le banquier l'un de l'autre, en fait. En tout cas, c'est pas censé être comme ça que ça doit se passer.
Exactement, tout à fait.
Ah, ok.
Tout à fait. C'est ça. Donc, le conseil pour les personnes non mariées, selon moi, c'est mon avis personnel, bien entendu. Si vous souhaitez mutualiser une partie pour des projets communs tels que le Hajj ou l'achat d'une résidence principale ou un tour du monde ou que sais-je, vraiment des projets qui sont communs au couple, faites-le, mais à côté de ça, conservez une partie d'épargne personnelle pour nos projets personnels.
Parce qu'encore une fois, on est deux entités différentes. Je pense que aussi, tu vois, tu parlais de communication, je pense que peut-être aussi ce qu'il faut expliquer à son époux, c'est que la personne ne fait pas ça contre elle, en fait. C'est pas « j'ai besoin de mon argent parce que je ne te fais pas confiance ». C'est pas ça l'idée.
L'idée, c'est de dire, bah non, mais on n'est pas obligé de tout faire ensemble. Parfois, moi, j'ai des projets qui me font grandir moi en tant que personne, qui me font cheminer moi en tant que personne d'une certaine manière. On n'est pas obligé de tout faire en commun. Et c'est pas grave, c'est même bien parfois. et voilà, quoi. L'idée, tu l'as très bien dit, je trouve ça très intéressant de dire, de retourner aussi la chose en disant, mais toi aussi, peut-être que demain, tu auras besoin de liquidité pour toi, pour tes projets. Et je n'aimerais pas avoir à te dire, c'est pour quoi faire, c'est un peu nul ce que tu dis. Ouais mais ça. est-ce que vraiment t'en as besoin? Alors qu'en fait, c'est pas mon problème si vraiment t'en as besoin dès lors où toi, ça te fait plaisir et que financièrement, t'as la possibilité, que ça nous met pas mal financièrement, que ça te met pas en difficulté non plus. Bah, si, mais la machin là, on y va en fait. Enfin, tu peux y aller, grand bien te fasse, entre guillemets.
C'est tout à fait ça.
J'ai une autre question. Est-ce que tu as donné ton option entre guillemets pas préférée mais celle que tu trouves la plus optimale pour une aisance et presque une sérénité au sein du couple au niveau de l'argent. Est-ce qu'il y a des problèmes ou des problématiques liées à l'argent dans le couple que tu as pu rencontrer encore une fois quand tu as accompagné des personnes qui étaient liées à autre chose que ce que l'on vient de se dire, à savoir mutualiser jusqu'à ne plus pouvoir retrouver son indépendance. Est-ce qu'il y a des problématiques d'argent que tu as pu voir et qu'on pourrait ensemble le résoudre pendant cette conversation?
Ouais, alors malheureusement, là, on va rentrer dans... Parce qu'après, il y a des problématiques même qui parfois me dépassent moi, sur lesquelles je ne peux pas agir. Parce que certaines sœurs, par exemple, vont décider... De n'avoir aucune source de revenus et du coup c'est l'époux qui va gérer lui l'intégralité des dépenses du foyer et sans jamais laisser sous-entendre à la femme ce qui se passe réellement dans le foyer.
C'est-à-dire
des exemples, j'en ai plein et qui sont malheureusement pas glorieux. De femmes qui s'aperçoivent, par exemple, 5 mois après, que ça fait 5 mois que le mari n'a pas payé le loyer. Ou de maris qui peuvent souffrir de phobies administratives, donc avec des amendes qui se sont accumulées, et finalement, ça finit en saisie sur salaire, et puis lui se retrouve dans la panade, mais elle n'est jamais au courant de rien. Ah. Je trouve vraiment... que le tabou lié à l'argent, c'est vraiment un poison.
Ah bah complètement.
Il faut vraiment en parler, il faut vraiment pour moi qu'il y ait une totale transparence et que la confiance n'exclut pas le contrôle. On peut discuter, voilà, si je jette un œil à ce qui se passe dans le compte en banque, c'est pas parce que je ne te fais pas confiance, mais c'est parce que je fais partie intégrante du foyer en fait.
Bah tu vois, moi j'irais même
vraiment se considérer comme étant une équipe en fait.
C'est exactement ce que j'allais te dire, Sidon, parce qu'en fait, enfin moi je, tu vois, je te regardais, j'étais un peu interloquée parce que moi dans mon esprit à moi, c'est pas parce que tu ne contribues pas à l'argent que vous décidez pas à deux en fait. C'est-à-dire que faut faire attention. C'est pas parce que l'homme il subvient aux besoins qu'il doit être seul dans la gestion des finances, attention, c'est pas et puis je pense que par contre il faut faire très 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 attention à mon avis, justement on parlait des questions aussi à poser avant de se marier éventuellement, c'est que il faut être quand même conscient que faut s'assurer que ton futur époux il ne voit pas l'argent comme un moyen, comme un objet de contrôle. Attention, c'est pas encore une fois, c'est peut-être toi qui provide, mais à la fin de la journée, c'est peut-être moi qui vais avoir la gestion du budget entre les mains. Parce que l'argent, c'est pas le seul outil de pouvoir et ce n'est même pas un outil de pouvoir en fait. Faut arrêter ça. C'est-à-dire que oui, c'est l'homme qui va chercher l'argent, machin là, c'est bien. Mais dans certains couples, hein, on s'entend dans certains couples et c'est ce à quoi nous enjoint l'islam. Encore une fois, c'est la responsabilité de l'homme, c'est pas la responsabilité de la femme, elle peut le faire, mais c'est pas sa responsabilité. Mais c'est pas pour autant qu'il faut en faire une arme de destruction massive. Et en tant que femme, les femmes aussi, elles ont la responsabilité de s'assurer qu'elles seront d'eux. Parce que ça aussi, chacun a sa part de responsabilité. C'est sûr que l'homme, quand il ne paye pas le loyer depuis 5-6 mois, il a une grosse responsabilité. Mais la femme aussi, on vit dans la maison. Hein. On n'est pas des enfants. Que l'enfant, il n'ait pas de responsabilité sur ça, j'entends. Mais qu'une femme se dise « Oh, je pensais que c'était payé ». Ah ben, avec des « je pensais que », je pense que justement, ça aboutit à des catastrophes, c'est ce que tu dis là, quoi.
Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais des cas très compliqués, j'en aurais malheureusement peut-être des dizaines à t'exposer. Et c'est justement pour ça, je pense, que je tiens à ce que les femmes comprennent quand même l'importance pour moi. Alors, je ne dis pas hein, qu'il faut aller travailler en entreprise ou autre, mais ne serait-ce que d'avoir un petit quelque chose. Un petit quelque chose à soi. C'est très important.
Ouais.
C'est très important selon moi.
Ok. Ouais, et encore une fois, tu parles d'expérience. C'est-à-dire que effectivement, tu dis selon toi, mais c'est un avis
Vraiment, vraiment.
que tu as forgé avec ton expérience et personnelle et professionnelle. L'idée, c'était vraiment pas
Exactement.
d'aller dans des exemples précis en disant, ah bah tu sais, il y a telle personne, son mari, il est addict au jeu. Ah bah tu sais, il y a telle personne, son mari, il fait n'importe quoi avec son argent, il lui a jamais dit. Mais pour moi, l'idée, c'était vraiment de profiter de ton expérience pour avoir des points d'alerte, ce qu'on a pu faire jusqu'à présent. Donc, si on essaye de les énumérer, l'un des points, à mon avis, qui est principal, c'est de se dire que c'est pas parce qu'on ne contribue pas aux finances du loyer, si on contribue pas aux
Du
finances
foyer.
du foyer, pardon, qu'on n'a pas son mot à dire, qu'on n'a pas un œil à avoir. Faut se responsabiliser dans la vie. Vous êtes un couple, vous êtes deux, c'est pas un parent et un enfant. La femme aussi, elle a sa responsabilité. Il
Exactement.
faut avoir un œil sur la gestion des finances. Et la deuxième, c'est vraiment s'assurer que l'argent, c'est pas un moyen de pression ni de pouvoir au sein de votre foyer. Ça, c'est hyper important. Moi, j'avais une amie. Elle avait fait une kabbalah avec donc une rencontre avec un frère. Et en fait, ça se passait très bien. Ils étaient bien engagés. Et en fait, elle, ce qui l'a freinée, c'est que lui, il lui avait dit, bah alors déjà, ma femme, je souhaite pas qu'elle travaille. Soit, je contribuerai aux besoins financiers, soit. Par contre, ma femme, même une carte bleue, faut pas qu'elle ait, quoi. Elle lui dit, mais on vit dans, tu vis dans quelle galaxie, en fait? C'est-à-dire que, en plus, c'était vraiment ce truc de c'est moi qui gère tout, t'as pas besoin de savoir, t'as pas besoin d'avoir une carte. Encore une fois, si, ok, elle a pas de carte, mais ta carte, c'est ma carte, pourquoi pas? Mais si je dois te demander pour aller chercher du pain, et que quelque part, ça te plaît, tu vois, ce truc que j'ai à te demander, je trouve que c'est pas
Ah,
très sain.
oui, bien sûr. Ouais, là, c'est complètement malsain, même.
Voilà, donc je pense qu'il y a des choses comme ça à garder en tête. Et puis l'un des derniers points, c'est aussi d'avoir justement d'avoir à cœur son autonomie. Encore une fois, pas c'est pas en réponse à l'homme, c'est pas en réponse à un quelconque patriarcat. Moi, je trouve que c'est honorer la possibilité que nous a donnée Allah Subhanahu wa Ta'ala, et puis c'est aussi honorer le fait qu'on soit une entité à part entière. Après, chacun fait comme il veut. Il y a des couples qui se comprennent et qui
Exactement,
s'entendent
tout à
très
fait.
très bien en ayant
Tout
un
à
compte
fait.
commun, et ton argent c'est mon argent, et ça fonctionne très bien. Je pense qu'on n'est pas en train de dire qu'il n'y a qu'un seul modèle et qu'il faut s'y référer. Hein.
Non, non, bien entendu. Vraiment, chacun gère ses finances comme il l'entend. Mais selon moi, et encore une fois, c'est mon avis personnel, de par mon expérience personnelle et professionnelle, je trouve qu'il est quand même nécessaire que la femme conserve une forme d'indépendance. Voilà.
D'autonomie financière.
C'est
J'avais
ça, tout à fait.
une question concernant l'éducation des enfants. Parce qu'en fait, j'ai vu notamment sur ton site que 77% des Français n'avaient pas reçu d'éducation financière. 77%, c'est énorme. Je fais partie de ces 77%. Et moi, je me souviens que quand j'ai... En fait, moi, j'ai commencé à travailler à 18 ans, et surtout, j'ai obtenu mes bourses, enfin les bourses de l'État. J'avais 18 ans et j'ai quitté aussi le foyer familial à 18 ans pour poursuivre mes études un peu plus loin, enfin un peu loin de chez mes parents. Mais par contre, moi, jamais mon père, il m'a posé, ou ma mère, en me disant, Madina, de l'argent, ça se gère comme ça. Et honnêtement, moi, ça a eu des grandes conséquences négatives sur ma vie, puisque j'ai été à découvert une bonne dizaine d'années, ce qui est beaucoup quand même. Ma question, c'est, toi, si tant qu'il y a des enfants, et pour les personnes aussi qui nous écoutent, est-ce que toi, tu éduques tes enfants? Est-ce que toi, tu les encourages à avoir une éducation financière? J'imagine que oui. Et si oui, comment tu fais?
Alors, comment je fais? Déjà, les enfants ont tendance beaucoup à reproduire ce qu'ils voient. La première chose que je fais, c'est que mes enfants me voient faire mon budget, parler d'argent, avec mon mari. Ils nous entendent parler, en fait. Pour moi, ce n'est pas des discussions privées,
D'adulte.
tabous, voilà.
Ouais.
C'est des discussions qui... Ouais, c'est ça. C'est des discussions, en fait, qui font partie de la vie. Et en fait, je ne mets pas le sujet de l'argent en cloche, comme si c'était quelque chose dont il ne fallait pas parler. Non, on en parle ouvertement. Ils savent ce que c'est que l'épargne. Ils savent pourquoi il faut épargner. Là, dernièrement, par exemple, donc moi, je ne suis plus salariée de mon entreprise, donc je fais encore partie de mon entreprise, mais je ne suis plus salariée et je suis rémunérée par la CAF.
D'accord.
Sauf que la CAF n'est pas huilée comme on le voudrait et que là, pendant plus de 3 mois, je n'ai rien touché de la part de la CAF. Et bien ça, c'est des choses que je peux verbaliser avec mon enfant. Donc ma fille, elle a 12 ans.
D'accord.
Donc elle commence à être ado, pré-ado. Donc ça, c'est des choses dont on peut discuter. On va pouvoir parler, je vais pouvoir lui expliquer. Quand elle reçoit de l'argent de ses oncles, tantes ou même par nous, je vais lui expliquer l'importance de toujours mettre une petite part de côté au cas où un jour elle a envie de s'acheter quelque chose qui lui tient réellement à cœur. Donc c'est comme ça qu'on commence à parler de l'épargne. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les erreurs, et je mets des guillemets sur le mot erreur parce que c'est plus des expériences, elles font partie de la vie et elles nous construisent. Et moi qui suis constamment en train de parler d'argent, j'avais fait l'expérience dernièrement, donc ma fille donc est allée au cinéma pour la première fois avec ses copines. Une place de cinéma, c'est je crois 6 euros pour les enfants.
Ouais.
J'avais pas de monnaie, donc je lui ai donné un billet de 20 euros.
Sans aucune
Donc,
recommandation, tu as juste dit tiens.
normalement, sans aucune recommandation,
Ok.
tiens, pour le. Alors, elle était censée faire le cinéma, 6 euros. Et alors, je sais plus si c'était le cinéma ou. Non, 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 c'était pas le cinéma, je dis une bêtise. C'était. Elle devait aller manger au McDo avec ses copines. C'était pas le cinéma. Donc, pareil, un menu au McDo, enfin, je me rends pas trop compte, je crois que c'est 7 euros, quelque chose comme ça.
Je crois à peu près,
Donc,
j'imagine,
je
hein.
lui donne les 20 euros.
Ouais.
Elle est censée rentrer normalement bah, avec la monnaie. Et donc le soir, je lui dis bah, passe-moi la monnaie. Et là, elle me regarde tout sourire et dit que bah, en fait, il n'y a pas de monnaie. Parce que j'ai payé une glace à
La
Ella,
mot quoi?
puis après, j'ai payé le menu à un
Ah bah
tel.
bien sûr. Ouais, elle a rincé tout le
Et
monde
puis,
quoi. Elle a fait
comme.
plaisir.
Et puis, ce qu'elle m'a dit, c'est. Et puis, comme il me restait de l'argent, comme si rentrer avec de l'argent, c'était interdit, on est parti faire des tours de
Bah bien
manège.
sûr.
Donc, c'est pour montrer que même en ayant eu, entre guillemets, les conseils d'une maman qui aide les gens à gérer leur argent, tout ça, c'est des expériences que tu dois vivre. Mais mieux vaut en vrai les vivre à
Ouais.
12 ans et que ta mère t'explique que bah, c'est cool, franchement, tu as passé un bon moment, je suis très contente pour toi. Et puis, il n'y a pas mort d'homme. Tu t'es amusée, tu as été généreuse, c'est très bien. Mais. Bah de base, t'es parti avec une consigne et puis bah t'as pas trop respecté la consigne,
Oui, c'est
quoi.
clair. En tout cas, ça peut pas être un mode de vie,
Donc
quoi. Tu vois, ce truc de
voilà.
je pars avec 20, je reviens avec 0 de temps en temps, fine, mais ça peut pas être ça ta vie, quoi.
Voilà, exactement, exactement. Donc en vrai, c'est bah, parler d'argent. Essayer de réagir un petit peu. C'est marrant, hier, on regardait un reportage sur à la télé. Et voir un petit peu les réactions et les réflexions qu'ils peuvent se faire sur les personnes qui ont beaucoup d'argent.
Ah, c'est intéressant
Donc
ça.
c'était un reportage aux États-Unis avec des personnes qui avaient des camping-cars XXL, enfin vraiment des trucs qui valaient des millions de dollars. Et je l'entendais réagir. Mais moi, je trouve que ça sert à rien hein, d'avoir trop d'argent. Et en fait, c'est pousser la réflexion. Ah ouais, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui se passe si tu as beaucoup d'argent? Et vraiment, voilà, essayer de pousser la discussion sur les sujets liés à l'argent et voir un petit peu bah, comment elle se sent et parler, parler, parler. Comme pour le couple, hein, les enfants, c'est pareil. Il faut beaucoup dialoguer et essayer de leur permettre de manipuler de l'argent bah, assez tôt, en fait, bah, pour qu'ils puissent se faire leur propre expérience sans arriver en étant adultes. Et en n'ayant aucune base de l'éducation financière.
Ouais, c'est hyper intéressant. Là, tu as sorti vraiment deux conseils qui sont très forts. Le premier, c'est de se dire, en fait, il vaut mieux mal gérer son argent quand tu as 20 euros que quand tu en as 2000. Et le deuxième, c'est que quand les enfants parlent d'argent, accueillir leurs réflexions. Et en fonction, effectivement, pouvoir rappeler certaines choses. En parlant de rappel, je voulais justement en faire un. On en a parlé un petit peu, mais je pense que c'est important de le faire parce que, encore une fois, cette conversation, elle est dans le cadre d'un podcast qui est là pour nous rapprocher au mieux de nos aspirations religieuses, de Dieu. Et franchement, la religion musulmane, c'est une très, très belle religion parce que elle a pensé à tout et c'est un formidable outil de méditation. Et je voulais juste qu'on prenne le temps de s'intéresser sur le terme « risq » qu'on a prononcé quelques fois lors de cette conversation. Donc, je rappelle juste que l'argent, comme toute subsistance, la santé, les enfants, le mari, si on est croyant, on sait que ça vient d'Allah. La deuxième chose, c'est que donc, le mot « risq », il vient de la racine le ra, le zayn et le qaf, et qui veut littéralement dire offrir à quelqu'un des moyens de subsistance, attribuer, accorder, pourvoir. L'un des sublimes noms d'Allah, c'est Ar-Razaq, qui signifie celui qui apporte toujours la subsistance, ou encore celui qui sustente, sans cesse. Rien que ça, ça devrait nous donner des premiers outils de méditation. En revanche, on ne peut pas s'arrêter juste à ça. Une fois qu'on a dit ça, on n'a pas tout dit. Parce que, en fait, une fois qu'on a dit que la subsistance venait d'Allah, une fois qu'on a dit que le risq, c'est quelque chose qui est déjà écrit, il faut qu'on puisse fournir les efforts nécessaires pour l'obtenir. Moi, le risq, je le vois un peu comme une espèce de grosse besace au-dessus de notre tête et qui nous suit partout où on va. Parce que le risq, c'est ça. Partout où tu vas, il te suivra. En revanche, il faut pouvoir activer le levier qui permettra justement à cette grande besace de se déverser sur toi. Ça, c'est important. Oui, le risq, il vient d'Allah, mais nous, en travaillant, en faisant des sadaqas, en faisant des prières surérogatoires, c'est un moyen d'activer notre risq. C'est un moyen même parfois de l'augmenter. Je trouve que c'est important de le redire parce que je pense que ça peut vraiment donner aussi Exactement. Un nouveau rapport à son argent. Encore une fois, un rapport bien plus sain que quand on grandit avec justement les 3C, le conditionnement, la culture et les croyances qui amènent un tout nouveau regard à l'argent, un rapport bien moins beau en fait.
C'est exact, c'est tout à fait ça. Et merci Madina pour ce beau rappel. Effectivement, la subsistance vient d'Allah, mais à nous de faire les causes pour que la subsistance qu'il nous a destinée nous arrive entre les mains et qu'on en fasse bon usage. Et je prie Allah pour que toutes les personnes qui écoutent ce podcast puissent en profiter correctement et faire usage correct de la subsistance qu'Allah l'aura octroyée.
Amin. Mais écoute, avant de se quitter, Sitan, j'aimerais quand même beaucoup que tu puisses nous dire, qu'on prenne le temps, que tu expliques un peu quelles sont les formules d'accompagnement, parce que vraiment, encore une fois, moi, en t'écoutant simplement, les gens, hein, juste en l'écoutant, j'ai changé ma manière de gérer mon argent. Et ça passe aussi par la manière de voir son argent. Franchement, j'ai vraiment vu que, encore une fois, j'avais une manière de gérer l'argent qui était... qui manquait de maturité. Et on va pas revenir sur ce sujet-là, mais je pense qu'on est dans une société où on nous infantilise beaucoup et ça arrange bien des gens qu'on soit dans une immaturité sur plein de choses, hein, une maturité émotionnelle, une maturité financière. Mais je n'ouvre pas cette parenthèse parce que sinon, on en a encore pour une heure. Mais je voulais vraiment... J'aurais vraiment voulu, si tant qu'on prenne le temps, que tu expliques aux personnes comment tu accompagnes et quelles sont tes différentes offres, parce que je pense que beaucoup de gens, bien une élève, pour en profiter.
Alors, avant ça, je tenais juste à rappeler une chose qui est très importante pour moi vis-à-vis du découvert qu'on a tendance à banaliser et on va considérer à tort que c'est de l'argent cadeau que la banque nous offre et que c'est le prolongement de notre salaire. Rappelez, étant donné qu'on est sur un podcast musulman, que le découvert est un crédit. Parce qu'en fait, lorsqu'on n'a plus d'argent, on va pouvoir continuer à dépenser notre argent, mais en fait, c'est pas un cadeau. Les agios qui nous sont facturés, c'est le coût de l'argent qui nous a été prêté. Ouais. Donc, je voulais juste remettre ça, non pas pour culpabiliser les gens, mais juste pour qu'ils prennent conscience des choses et qu'ils essayent, tant bien que mal, de sortir de ce découvert-là. Alors, ça se fait étape par étape, hein, pas du jour au lendemain. Dans un premier temps, en prenant conscience et puis ensuite en mettant en place un plan d'action, comme pour tout, hein, pour pouvoir venir à bout de ce découvert-là. Alors du coup, pour les personnes qui veulent me retrouver, donc je suis présente sur Instagram Donc, mon nom, c'est Budgétise et je donne beaucoup de conseils gratuits sur ma page Instagram. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, ils peuvent télécharger mon atelier mensuel dans lequel j'explique comment faire son budget mensuel, pourquoi et comment. Et l'atelier mensuel ne suffisant pas, et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et vraiment reprendre le contrôle de leurs finances par la méthodologie que j'ai décrite tout à l'heure, donc à savoir qui je suis, pourquoi j'ai envie de mieux gérer mon argent, comment je dois m'y prendre, par où je dois commencer. J'ai une formation en ligne qui s'appelle Get Your Freecom, dans laquelle j'enseigne aux personnes comment reprendre le contrôle de leurs finances, avoir une relation plus saine avec l'argent et comment anticiper les dépenses qui vont arriver sans qu'elles soient un fardeau pour nous. Donc voilà, et j'ai également un fichier Excel qui permet de faire son budget à l'année. Et mon site internet est en cours de construction. Je pense qu'il devrait sortir à les premières semaines de septembre.
Charles.
Donc ce sera www.budgetize.fr. Donc je pense que Madina, je te donnerai le lien que tu puisses peut-être le mettre dans la description.
Avec grand plaisir. Et puis je me permets juste de rajouter une chose, c'est que moi ce que j'aime avec les conseils de Citan, moi j'ai déjà regardé certaines de tes vidéos, moi ce que j'aime vraiment avec toi, et je trouve que tu sais comme tu disais, on attire ce qu'on est. Je crois on fait partie, on est un beau mariage, hein, on est des enfants d'immigrés et en même temps on a grandi en France, donc on aime se poser des questions parce qu'on est des Français, mais on aime aussi être pragmatique. Et je trouve que tu as vraiment ce truc. Je dis pas qu'en Afrique on se pose pas de questions, c'est pas ça, c'est juste. Et je trouve que dans tes formations, il y a vraiment ce mélange des deux. C'est, on se pose des questions. Pourquoi tu réagis comme ça avec l'argent? C'est quoi tes limites avec l'argent? Et puis après, on se met au boulot, quoi. On n'est pas là pour disserter pendant 6 heures sur l'abondance, sur des choses comme ça. Une fois qu'on a posé les bases, l'idée c'est d'aller mieux. Et ça, moi, je trouve que c'est exceptionnel, vraiment.
Ah alhamdoulilah et barakallah fiki pour le compliment et c'est vraiment génial parce que c'est vraiment ce que je veux véhiculer et donc je suis contente que ce soit perçu comme
Ouais,
tel.
c'est très lisible, t'inquiète pas, je pense que c'est très clair. Donc, les personnes qui nous écoutent, vraiment, je vous invite à suivre Citan sur les réseaux si vous avez les réseaux. Mais vraiment, plus que ça, regardez ce qu'elle propose comme contenu. Et si ça vous apporte, eh bien, payez. Vous savez comment je suis là-dessus, hein? Il faut rémunérer les bons contenus parce que c'est comme ça qu'on les pérennise, c'est important. Donc, merci vraiment beaucoup, Citan. C'était une
Exactement.
conversation qui était
Merci à toi,
passionnante.
Madina.
Vraiment, je demande vraiment à ce printemps-là que cette discussion elle soit riche en enseignements pour tout le monde et qu'elle puisse nous permettre d'avoir un rapport plus apaisé avec l'argent. De ce que je retiens de notre conversation, c'est que, et franchement, j'étais pas arrivée avec cette croyance-là, mais je retiens que franchement, l'argent c'est cool, l'argent c'est beau, l'argent ça vient d'Allah déjà. Donc franchement, il n'y a pas à se dire que l'argent c'est sale. Donc une fois qu'on s'est dit ça, par contre, c'est pourquoi j'ai sali cette idée-là dans ma tête et comment je peux avoir une meilleure notion et faire en sorte que ça reste ce que c'est, à savoir un moyen et pas autre chose.
Exactement, exactement. Très belle
Mais
conclusion.
je te remercie beaucoup, Citan, pour ce très très bon moment.
Merci à toi pour l'accueil. J'ai passé un très bon moment et c'est toujours un plaisir. Habituellement, j'écoute ton podcast, donc bon bah voilà. Merci à toi de m'avoir fait l'honneur de
Double
m'inviter.
kiff, très bien. À très bientôt, Citan. Salam alaikum, rahmatullah,
À bientôt,
barakatuhu.
Madina. Wa alaykoum salam.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça, c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème. Abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leurs doigts. Qu'Allah Azawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous. Thank you.